الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد ومرسي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a facilité ce noble voyage et nous a honoré en nous joignant aux pèlerins. On a pu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir la Umrah. On lui demande de nous ajouter de ses grâces et de ses faveurs afin de pouvoir accomplir le pèlerinage, et ce, dans les meilleures conditions. Parmi les choses les plus importantes, il y a le fait de préserver son temps et de l'utiliser à bon escient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ni'matani marbounun fihima kathirun minan nas ash-shihhatu wal-farah » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a deux bienfaits. La plupart des gens ne l'optimisent pas. La plupart des gens le négligent. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ce voyage, en plus de cela, il se trouve dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, il doit préserver son temps. Que dire alors s'il se trouve dans le meilleur endroit au monde, Mecca? Et plus tu auras connaissance de la noblesse de cette ville et de ses mérites, plus tu préserveras ton temps et feras de bonnes œuvres. C'est pour cela que le sujet qui a été choisi est Fada'il Mecca et les mérites de la Mecque. Et s'il reste du temps, Inch'Allah Ta'ala, on expliquera l'histoire de cette ville. On expliquera l'histoire de cette ville qui, à la base, était un endroit désertique. Parmi les mérites et la grandeur de cette ville, tout d'abord, le fait qu'elle ait plusieurs noms, plusieurs appellations. Qu'elle ait plusieurs noms et plusieurs appellations. Le nom le plus célèbre, bien évidemment, c'est Mecca. Mais elle s'appelle également Bekka. On l'appelle également Umul Qura. On l'appelle également El Balad. On l'appelle également El Balad ou l'Amin. Mecca et Bekka, ça vient de la notion d'anéantir toute personne qui s'enorgueillit et qui vient plein de vanité pour nuire à ceux qui sont en sécurité sur la terre sainte d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces noms, comme on l'a mentionné, Al-Balad ul-Ami, le pays ou l'endroit, la contrée de sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala élève ce qu'il veut parmi les endroits, et il a choisi d'élever Mecca au-dessus de l'ensemble des autres villes. Ainsi, parmi ces noms, il y a également Umul Qura, la mère des villes. Car toutes les autres villes du monde suivent Mecca, que ce soit dans la Qibla ou que ce soit dans le reste. C'est le berceau de la prophétie et la ville natale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle également El Baytul Haram. Et tout cela est mentionné dans le Qur'an. Passons aux mérites en les énumérant. Premièrement, c'est la maison la plus ancienne, la mosquée la plus ancienne d'Allah Azza wa Jal, la demeure d'adoration la plus ancienne. Dans Sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil'alamin » Donc la première demeure qui a été érigé pour Allah subhanahu wa ta'ala afin que les gens viennent l'adorer, c'est celle-ci, l'endroit dans lequel vous vous trouvez. والحمد لله رب العالمين. Abu Dharr radiallahu anhu a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quelle est la première mosquée qui a été construite pour les gens? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Abu Dharr lui a dit: Thumma ay, ensuite. Il lui a dit: Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée sacrée qui est Al-Aqsa, qu'Allah la purifie de ceux qui commettent le désordre. Puis il lui a demandé: Kam baynahuma, combien a-t-il eu de temps entre la construction de la mosquée sacrée de la Mecque et Al-Masjid al-Aqsa? Il a répondu: Arba'ou, 40 ans. 40 ans. Deux questions. Qui a construit Al-Ka'ba? Ibrahim, alayhi salam. Vous êtes d'accord avec lui? C'est Ibrahim, alayhi salam, qui a construit la Ka'ba? Il l'a construit seul? Avec qui? Ismaïl, alayhi salam. Taïd. Qui a construit le Masjid al-Aqsa? Hein? Qui a construit le Masjid al-Aqsa? Andaman. Ya'qub alayhi salam. Ya'qub alayhi salam, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. Ya'qub, c'est le fils de qui? De Ishaq alayhi salam. Ishaq, c'est le fils de qui? Ibrahim alayhi salam. Combien y a-t-il eu entre la construction de le Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa? 40. Ça, c'est le hadith de Abi Dharr, rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim rahmatullahi alayhima. Ça, c'est le premier mérite qu'on mentionne. C'est la maison la plus ancienne. Ensuite, plus tard, Suleyman alayhi salam a restauré Al-Masjid al-Aqsa. Mais celui qui l'a construite, c'est qui? C'est Ya'qub alayhi salam. Barakallahu fikum. Le deuxième mérite qu'on mentionne, c'est qu'Allah en a fait une terre sacrée, une terre sainte. En arabe, on dit harama. Allah Azza wa Jal a fait de Mecca une terre sacrée où le fait de verser le sang n'est pas permis. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Abu Shurayha radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Mecca taharramaha Allah. Certes, Mecca, c'est Allah qui l'a rendu sacré. Wa lam yuharrimha an-nas. Et ça n'est pas l'œuvre des gens. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fi biha dama. Il n'est donc pas permis à une personne qui croit en Allah et au jour dernier d'y verser le sang, ni de déraciner les arbres. Parmi les mérites de la Mecque, le fait qu'il y ait la mosquée sacrée de la Mecque. Et celui qui prie dans la mosquée sacrée de la Mecque, savez-vous combien a-t-il de récompenses? Avant ça, une question subsidiaire. Celui qui prie dans une mosquée quelconque, hein? Celui qui prie dans une mosquée quelconque, il a combien de récompenses? Hein? 25, 27, il a 25, 27 ou 29 degrés de plus, qu'une prière accomplie chez lui ou au marché, c'est-à-dire en dehors d'une mosquée. Vous avez suivi? Maintenant, combien de récompenses a-t-il s'il prie fil masjid al-haram? Indaman, qui répond à la question? Vous pensiez pouvoir vous asseoir dans le cours? Vous reposez, moi je me fatigue. On va tous participer. 100 000. Tu dis qu'il a 100 000 récompenses. C'est ça ta réponse? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui? 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 Vous êtes tous d'accord avec lui? Oui? Moi je ne suis pas d'accord avec lui. C'est mon frère. Il est beau. Allah mabarak. La belle tenue. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a une nuance MashaAllah. Afdal min mi'ati alif. Allah Azza, la grâce d'Allah Azza wa Jalla est encore plus vaste, encore plus grande. Le prophète alayhi salat wa sallam n'a pas dit 100 000. Il a dit mieux que 100 000. Mieux que 100 000. On ne va pas enlever ça quand même. Une prière accomplie fil masjid al-haram afdal min mi'ati alif est meilleure que 100 000 prières priées ailleurs. Quand tu pries une prière, tu n'as pas une hasana. N'est-ce pas? Quand tu pries une prière, tu n'as pas une seule hasana. Tu as plus. Et si tu pries dans une mosquée, tu n'as pas une hasana. Tu as plus. Ben lorsque tu pries fil masjid al-haram, tu as 100 000 de plus qu'ailleurs. Tu as 100 000 de plus qu'ailleurs. Et là, la grande question. Est-ce que c'est qu'à l'intérieur de la mosquée sacrée de la Mecque, qu'on appelle Masjidul Kaaba, ou est-ce que c'est dans tout Mecca et le périmètre sacré? Ça veut dire même ici, sous vos pieds. Qui a la réponse? Hein? C'est dans tout le périmètre sacré. C'est dans tout le périmètre sacré. Pourquoi? Parce que ce terme-là, Al-Masjidul Haram, il est utilisé pour la mosquée de la Kaaba, effectivement. Mais en plus de cela, pour tout le périmètre sacré. Et parmi les preuves, je vous en mentionne ici deux. Dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram » il a le masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jal a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. Dans le hadith, il a été mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam était chez sa tante Ummu Hani. Pourtant, on appelait cela comment? Al-Masjid al-Haram. Donc, Al-Masjid al-Haram, c'est l'endroit où il y a le Kaaba, et c'est également ses environs. La deuxième preuve, un verset relatif au rite du pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du sacrifice. Il nous parle du sacrifice, et il nous dit que cela concerne celui qui n'a pas sa famille fil masjid al-haram. Les gens, ils habitent dans le masjid al-haram ou ils habitent à Mecca autour de le masjid al-haram. Ils n'habitent pas à l'intérieur, ils habitent autour. Pourtant, on a appelé ces habitations et ces lieux géographiques al-masjid al-haram. Ces deux preuves démontrent que la récompense, non seulement elle est à l'intérieur de la mosquée sacrée où il y a le Kaaba, mais également dans ses environs. Également dans ses environs. Falhamdulillah. Cependant, si tu pries à l'intérieur de la mosquée, c'est meilleur et méritoire parce que tu pries avec un très grand nombre de personnes. Et pour chaque pas que tu fais, on te donne une récompense, on t'efface un péché. Donc on ne dit pas, comme il y a 100 000 ici, on ne va pas prier au masjid, que ce soit à côté des mosquées avoisinantes ou bien Al-Masjid al-Haram. Non, celui qui peut prier à la mosquée, c'est mieux que de prier à la musalla. Et celui qui peut prier au Masjid al-Haram, non, c'est mieux que de prier dans une autre mosquée. Mais la personne fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité. Barakallahu fikum. Et le premier verset, c'est le premier verset de Sourate al-Isra, le deuxième est dans Sourate al-Baqarah. ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. طيب. Un autre mérite, c'est qu'on a appelé cette ville Umm al-Qura, la mère des villes. Et la mère, c'est la base à laquelle tout revient. Donc Mecca, c'est le berceau, c'est la source, c'est la base et c'est la qibla. Allah nous dit dans Sourate al-Shura, لتنذر أم القرى ومن حولها, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui sont dans les alentours. Parmi les mérites de la Mecque, il y a le fait que soit la Qibla, la direction de prière pour les musulmans du monde entier. Le cœur des musulmans du monde entier se dirigent vers cet endroit. Et toi, le premier, lorsqu'il y a le mois de Ramadan, tu suis salat ou taraweh, lorsque tu souhaites accomplir l'umra, lorsque tu souhaites accomplir l'hajj, ton cœur converge vers cet endroit. Mais aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla a fait venir ton cœur avant tes membres dans cet endroit. Sois donc un serviteur reconnaissant. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Où que tu sois, dirige ton être vers la mosquée sacrée de la Mecque. Quelle que soit la prière que tu souhaites accomplir, tu dois diriger ton être vers la mosquée sacrée de la Mecque. Aussi, comme c'est venu dans le hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Usama ibn Zayd, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié deux raka'a dans la mosquée sacrée de la Mecque, en sortant, il a dit « Hadil Qibla ». Voici la direction de prière. Voici la direction de prière. Aucune prière ne sera valable si elle n'est pas en direction de la Qibla. Naam, pour celui qui la connaît, qui a la capacité de la connaître. Cependant, deux remarques. La première, la Qibla, c'est pas un point. Pour celui qui est à l'intérieur et qui voit la Kaaba, il a l'obligation de se diriger en face. Pour celui qui est en dehors, il a l'obligation de se diriger vers la mosquée. Pour celui qui est en dehors de la Mecque, il a l'obligation de se diriger vers la Mecque. Après, c'est une direction. C'est-à-dire, si la Kaaba est précisément dans cette direction, si tu pries là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Naam, c'est pas un point. Naam, ça n'est pas un point. Barakallahu fikum. La deuxième remarque, il y a un moment où tu n'as pas l'obligation de te diriger vers la Qibla. Savez-vous quel est ce moment-là? Pour quelle prière tu n'as pas l'obligation? Et notre imam, notre exemple, le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même l'a fait. Dans quelle situation? Hein? Ne me dites pas que vous n'avez pas la réponse vous et que les femmes vont répondre à votre place quand même. Adil. Sauve l'honneur de la communauté. Naam. Ma sami'at. En voyage? Non, en voyage, tu dois diriger vers la Qibla. Mais, t'es en bon chemin. Nawafil, t'es dedans. Il a dit dans les prières recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, est monté sur sa monture. Il s'est mis en direction de la Qibla. Il a dit Allahu Akbar. Lui, il ne se souciait plus de la direction qu'elle entreprenait. Donc, pour la prière nafila, na'am, la prière non obligatoire, na'am, dans ce hadith, c'est venu de nuit, tu te mets en direction de la Qibla. Par exemple, tu es en voyage et tu n'es pas le conducteur. On va pas dire aux gens prier la nuit avec le volant et faire un accident, mais il est passager. Tu te mets en direction de la Qibla, tu dis Allahu Akbar. Et ensuite, la voiture, n'est-ce pas, elle va aller par ici, par là-bas. Et tu pries comme ça. Naam. Tu pries comme cela. Le prophète, alayhi salat wa sallam, l'a fait sur sa monture et ne se souciait plus de la direction de la Qibla. Barakallahu fikum. Parmi les mérites de Mecca, la sécurité, l'apaisement et la quiétude qu'Allah Azza wa Jal dépose dans le cœur de ses résidents, de ses passants, de ses voyageurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa man dakhalahu kana amina » et celui qui y entre s'y voit en sécurité. Il s'y voit en sécurité, c'est un ressenti que ressent chaque personne, subhanallah, qui arrive à Mecca ou qui rentre dans le Masjid al-Haram. C'est un apaisement. Comme si Allah Azza wa Jal retirait un poids de tes épaules. En plus de cela, il y a une autre notion, c'est que celui qui y entre, tu n'as pas le droit de l'effrayer, tu n'as pas le droit de lui nuire et de lui causer du tort. Na'am.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا.
Allah Azza wa Jal a mentionné ce bienfait. Allah Azza wa Jal a mentionné ce bienfait dans Sourate Al-Ankabut. Barakallahu fikum. Parmi les grands bienfaits de la ville de Mecca, le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait choisi pour les rites du pèlerinage. Quel pilier de l'islam ne peut s'accomplir qu'à Mecca et nulle part ailleurs? Le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est shahadatan. Est-ce que tu as l'obligation de venir à Mecca pour prononcer shahadatan et concrétiser cela? Non. Celui qui se convertit, par exemple, il se convertit où il est? C'est quoi le deuxième pilier de l'islam? Iqamu s-salah, l'accomplissement de la prière. Est-ce que tu es obligé de venir à Mecca? Non. Wa ju'ila al-ardi masjida wa tahura. En fait, Salam a dit, on a fait de la terre dans son entièreté, pour moi, un lieu de prière et un lieu de purification. Et il a cité deux exceptions. Ensuite, la zakat. Pas obligé de venir à Mecca pour la sortir. Le jeûne, pareillement. Par contre, le hajj ne s'accomplit nulle part ailleurs. Celui qui vient à Mecca, il va fil masjid al-haram, il fait le tawaf, et il est en lien avec Allah, il est en train de se rapprocher de lui. Celui qui va ailleurs et fait le tawaf, par exemple, autour d'une tombe, il a fait scission d'avec Allah Azza wa Jal, et il est tombé dans le pire des péchés. Al-shirk al-akbar. Iyadan billah. Ce péché au sujet duquel Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, inna shirka la zulmun azim. Certes, le polythéisme est une immense injustice. Ce péché au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la ahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Il t'a été révélé, c'est-à-dire au messager d'Allah, à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes. Si tu commets le shirk, c'est-à-dire tu donnes un égal à Allah Azza wa Jal, tu prends le droit d'Allah, la perfection, l'adoration, la création, la propriété, la royauté, et tu donnes ça à une créature faible, créée, tu auras donné un égal à Allah Azza wa Jal, c'est le pire des péchés par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi. Il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets le shirk, toutes tes œuvres seront annulées. Et tu seras du nombre des perdants. Donc le shirk, c'est le pire des péchés. Le tawaf autour de la Kaaba, c'est une adoration. Le tawaf autour d'autre que la Kaaba, c'est du shirk. Ayyaban billah. Donc parmi les grands mérites de cette ville, le fait que les rites du pèlerinage, on ne puisse les accomplir qu'à cet endroit. On ne peut accomplir les rites du pèlerinage qu'à cet endroit. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les grandes récompenses du hajj. Inch'Allah ta'ala, la veille du 8e jour, on se concentrera sur ses mérites. Mais pour le moment, man hajja lillah, quiconque accomplit le pèlerinage pour Allah, sincèrement pour Allah, فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَرْسُقُ رَجِعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ. Quiconque accomplit le pèlerinage pour Allah, retenez bien cette condition, pour Allah, sincèrement pour Allah, pas celui qui accomplit le pèlerinage et toute la journée il est comme ça, hein, avec son téléphone, il se filme, il appelle les gens, regardez je suis là, et il montre cela à tout le monde. Ça c'est pour Allah, ça. Allah Azza wa Jalla te voit d'au-dessus de sept cieux, au-dessus du trône. Il te voit, il t'entend, il connaît ta situation. Tu n'as pas besoin de te filmer, de te photographier, d'informer autrui de ton action. Allah Azza wa Jal, celui pour lequel tu es venu, celui pour lequel tu pries, celui pour lequel tu te prosternes, celui pour lequel tu accomplis le pèlerinage, il te voit, il t'entend, il connaît ta situation. Et c'est lui qui te rétribuera et te récompensera, Inch'Allah. Ajoutez à cela que Mecca est la ville la plus aimée d'Allah Azza wa Jal et préférée. En effet, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala rapporte le hadith d'Abdullah ibn Adi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallah, inna ki la khayru ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. » Le prophète alayhi salat wa salam a juré par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah. Et la terre la plus aimée chez Allah. Quand est-ce qu'il a dit cela? Lorsqu'il a dû sortir de la Mecque, parce que son peuple a tenté de l'assassiner, sallallahu alayhi wa sallam.
Il a conclu en disant, « Walaoula anni ukhrijtu mink ma kharajt. »
Et si on ne m'avait pas exilé de cet endroit, je ne serais jamais parti.
Non. Ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilay.
Ça c'est concernant Allah. Et concernant le prophète alayhi salat wa salam, il a dit,
oh comme tu es bon comme pays, et tu es l'endroit que j'aime le plus aimé auprès de moi, a dit le prophète alayhi salat wa salam.
Parmi les mérites de la Mecque, le fait que le prophète alayhi salat wa salam a fait son voyage nocturne à partir de là et qu'il est revenu ici. Allah Azzawajal a choisi cette ville pour que ce soit le lieu de départ et de retour du prophète alayhi salat wa salam dans ce grand miracle, le voyage nocturne, que probablement vous connaissez tous. Allah nous dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram » Allah Azzawajal a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée
de la Mecque.
Parmi les grands mérites et spécificités de la Mecque, le fait qu'on ait le droit de voyager pour accomplir des adorations dans un lieu spécifique que vers trois endroits. Quels sont ces trois endroits? Ce sont trois mosquées. Qui a la réponse? Quelle est la première? Al-Masjid al-Haram. C'est le premier endroit où on a le droit de voyager pour l'adoration. Quel est le deuxième? Al-Masjid al-Nabawi. La mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et le troisième? Al-Masjid al-Aqsa. Quelle est la preuve de cela?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. »
On ne peut voyager si ce n'est vers trois mosquées, pour trois mosquées.
Al-Masjid al-Haram wa al-Masjid al-Rasul ou Masjid al-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ou Masjid al-Rasul na'am sallallahu alayhi wa sallam ou Masjid al-Aqsa.
Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit textuellement. On ne voyage pas si ce n'est vers trois mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du messager et la mosquée de
Al-Aqsa, qu'Allah la purifie.
Parmi les grands mérites de la Mecque, le fait qu'Allah Azzawajal ait annexé la mosquée sacrée de la Mecque à lui-même.
Il a dit, Subhanahu wa ta'ala wa tahhir bayti lit-ta'ifi. Dans Suratul Hajj, Allah dit, et purifie ma maison pour ceux qui font le tawaf.
Le fait qu'Allah Azzawajal annexe spécifiquement la mosquée sacrée de la Mecque à lui-même, ça a un sens. N'est-ce pas que tout l'univers appartient à Allah? Hein? Allahu khaliqu kulli shay, Allah le créateur de toutes choses. Lahu mulku samawati wal ard, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Mais là spécifiquement, il dit tahir bayti, purifie ma maison. Les savants ont dit, lorsqu'Allah Azzawajal annexe une créature spécifiquement à lui, c'est pour montrer sa valeur, c'est pour l'anoblir, c'est pour montrer sa grandeur, c'est pour qu'on ne soit pas distrait de son mérite et de sa grandeur. Je vous donne un exemple. Toutes les chamelles sur la terre ne sont-elles pas les chamelles d'Allah? Pourtant, pour une seule chamelle, on l'a appelée la chamelle d'Allah. C'est laquelle? Hein? La chamelle de qui? De quel prophète? C'est le miracle d'un prophète. Men. La chamelle de Saleh. Naqatullah. On l'a appelée la chamelle d'Allah. Cette chamelle-là, elle a une grande spécificité. C'est qu'Allah Azzawajal en a fait un signe pour son prophète Saleh.
Alayhi as-salam. Barakallahu fikum. Toutes les demeures sont à Allah.
Mais les mosquées, on les a appelées comment? Hein? Buyutullah. Les maisons d'Allah, les demeures d'Allah. Naam. Parce qu'Allah Azzawajal aime qu'on se rende dans ces endroits-là pour l'adorer spécifiquement et particulièrement.
Sinon, tu peux adorer Allah Azzawajal chez toi. Tu peux adorer Allah Azzawajal ici. Tu peux adorer Allah Azzawajal en chemin.
Mais lorsque tu te rends à la mosquée,
il y a tout le sens de l'adoration, de la servitude, de l'amour, de l'espoir. Naam qui prend son sens et culmine.
Il y a encore plein de mérites, mais on va en mentionner un dernier. Ce mérite-là, subhanallah, Il est extraordinaire. Il est grandiose et il est sublime ici. Et je suis sûr que vous allez ressentir ce que je vais vous décrire. Lorsque tu viens à Mecca et que tu n'es jamais venu, naam, et que tu regardais peut-être à la télé, la salatou taraweh, naam, et que tu te disais, Inch'Allah, un jour je vais aller, moi, je vais me rendre à Mecca. Naam, la base, écoutez bien, la base, quand il y a une chose de dunya que tu souhaites, lorsque tu la possèdes et lorsque tu l'as goûtée, la base c'est quoi? Le goût, il augmente ou il diminue? Hein? C'est quoi le meilleur plat au monde, Bakary? C'est le tcheb, évidemment. Le tcheb malien. Hein. D'accord? Bon, sénégalais, si je suis obligé d'être véridique. Juste après, malien. Hein. Ça, il n'y a pas de divergence, c'est connu. Donc, mais nous, on le mange depuis qu'on est né, naam, jusqu'à le départ de la maman, rahimahallah. Ensuite, les héritières. Donc, ça, c'est pas pareil quand tu l'as mangé, remangé, n'est-ce pas? Voyez. Celui qui connaît par exemple la tangia, il arrive, il mange, il dit, Mashallah, j'ai jamais mangé comme ceci, comme cela. Ou bien il mange chez les Turcs, ou bien il mange chez les... Et ainsi de suite. Naam, sans aucune discrimination. Donc, mais quand tu as mangé, remangé, est-ce que tu souhaites la diversité? Ou bien est-ce que tu veux manger toujours le même repas et c'est de plus en plus bon comme au paradis? Hein? Tu veux dire la diversité. J'ai cité l'exemple de la nourriture. Naam. Donc, subhanallah, quand tu viens à Mecca et tu as goûté au tawaf, tu as vu la Kaaba, tu as rempli ton regard. Naam, combien de gens on a vu fondre en larmes lorsqu'ils ont vu pour la première fois la Kaaba? Naam, que chacun se remémore la première fois qu'il est entré dans le Masjid al-Haram, l'effet que ça lui a fait. Naam, puis tu as avancé sur le sahn, tu as dit Allahu Akbar, tu as dévoilé ton épaule, tu as commencé ton tawaf. Tu as fini tes 7 tours, tu as fait 2 rak'ah. Wallahi al-azim. Tu crains le monde, tu crains la chaleur, tu crains la bousculade. Et dès que tu arrives au 7e tour, tu as envie de recommencer. Allahu Akbar. Vous avez ressenti ça ou pas? Naam. Ensuite, tu fais 2 rak'ah, tu vas au sa'i. Tu dis, ah ouais, il y a du monde quand même. Puis tu commences ton sa'i. Tu vas sur Safa, tu fais 2 rak'ah. Tu avances, tu cours, tu avances. Tu fais 2 rak'ah sur Al-Marwa. Après le dhikr, et tu reviens. Quand tu arrives au 4e, au 5e aller, tu n'as plus de force. Mais tu vois des gens plus âgés que toi qui sont plus forts, t'as honte de montrer que t'es fatigué. Tu continues. Peut-être t'es en famille, elle a plus de force que toi, t'as honte, tu continues encore. Et t'arrives au 7e allée. Quand tu finis, tu regrettes le début du sa'i parce que tu as ressenti un délice dans ton cœur d'adorer Allah Azza wa Jal et de marcher où le prophète Ali Salat wa Salam a marché. De marcher, tu te rappelles l'histoire de Hajar avec son fils Ismaïl alayhi salam. Tu te remémores que Sahaba était là. Tu te remémores que le prophète alayhi salatu wassalam était là. Naam, lorsque tu montes sur Safa, tu te rappelles que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est devenu messager, il est monté sur Safa et il a appelé sa famille. Ils se sont réunis devant lui. Il était sur Safa. Quand vous remontez sur Safa, rappelez-vous cela. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est devenu messager, il est monté sur Safa. Il y avait plus de 360 idoles autour. Il y avait du shirk. Hein? C'était pas comme là, purifié par le tawhid. Le tawhid. Non. Rempli de shirk. La majeure partie des gens, c'est des polythéistes. Naam. De toute la péninsule arabique. Ils venaient sacrifier les bêtes au nom de El-Lat, au nom de l'Uzza, au nom de Hubal. Ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ils faisaient du shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam les a appelés. Il a appelé sa famille. Il a appelé ses oncles. Il a appelé Yani les tribus de Quraysh, ils se sont réunis. Puis, il les a appelés à l'islam. Vous savez ce que lui a répondu Abu Lahab? Tabban lak. Ali hada jama'atana. Que tu perdes à tout jamais. C'est pour ça que tu nous as réunis. Allah Azza wa Jalla a révélé quoi?
tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que les mains de Abu Lahab perdent. Vous savez pourquoi on a cité les mains? Parce que les mains, c'est la base de l'action. Ça veut dire tout ce que tu vas entreprendre. Toi qui as essayé d'humilier le messager d'Allah Azza wa Jal, élevé, honoré, à tout jamais, tout ce que tu vas faire, tu vas perdre. Tu vas perdre. Naam, inna shani aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, c'est lui qui sera sans postérité. Hein? Ils ont dit le prophète, ils ont dit Mohammed, il n'aura pas de descendance, son nom, il va mourir. Pourquoi? Parce que tous ces garçons sont décédés. Et le nom de famille se perpétue avec qui? Avec les garçons. N'est-ce pas? Quel est le nom le plus donné au monde aujourd'hui, vous savez? C'est quoi? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah azza wa jalla me donne encore un fils, je vais l'appeler Mohammed. Incha'Allah ta'ala. Naam? Et le seul qui a cru qu'il a suivi, c'est un enfant de 10 ans. Vous savez c'était qui? Hein? Le nom le plus donné, yani, au Yémen, peut-être en Turquie, beaucoup ils donnent aussi. Hein? Ali, radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, c'est un enfant tout petit. Lui, il est venu. Il a dit, moi, je te crois. Il est rentré en islam, il a su. Radiallahu anhu, c'est devenu le quatrième meilleur des hommes au monde. Allahu Akbar. C'est devenu l'époux de la meilleure des femmes qui marchait de son vivant, Fatima radiallahu anha. Le sang du prophète alayhi salatu wassalam est la prunelle de ses yeux. Naam. C'est devenu le père des deux bien-aimés du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hassan et Al-Hussein. Les meilleurs jeunes du paradis. Allahu Akbar. Naam. Et aujourd'hui, lorsqu'on monte sur Safa, qu'est-ce qu'on dit? Quand on serait Safa al-Marwa, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Faut connaître l'histoire. Quand vous faites votre Umrah, quand vous faites votre Hajj, chaque pas que vous posez, il faut savoir c'est quoi l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? C'est quoi le lien entre cette adoration et cette action et l'état du cœur dans la servitude envers nous et Allah. Puis, l'état de nos membres et le lien qu'il y a avec les actions du prophète alayhi salat wa salam. Il ne faut pas faire le Hajj ou l'Umrah qu'avec les membres. Il faut faire avec le cœur. Hein? Il faut faire avec le cœur. Chaque adoration, tu dois savoir c'est quoi la servitude et l'état du cœur. Barakallahu fik. Naam? On repose la question. Quand tu montes sur un safa, tu dis quoi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ensuite أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi أنجز وعده ونصر عبده il a tenu sa promesse, il a secouru son prophète, son serviteur. Et à lui seul, il a défait les coalisés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, monte sur Safa et Allah, azza wa jalla, lui promet qu'il va le secourir. Lui, il voit que du shirk devant lui et presque personne qui le suit. Et à la fin, il revient purifié, plus d'idole, plus de shirk, plus de mouchrik. Et là, quand tu dis « Anjaza wa'ada », tu te remémores tout ça. Tous les sacrifices que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait pour que l'islam se propage sur la terre d'Allah. Et toi aujourd'hui, tu arrives d'un pays lointain, tu montes sur Safa, aucun signe de shirk. Que du tawhid. Que du tawhid. Ça, c'est des sens qui sont profonds. Faut les connaître. Faut les connaître. Les adorations du cœur, c'est comme l'âme dans le corps. Si tu fais une adoration qui a que les membres, que les gestes, ben c'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans âme. Naam. Barakallahu fikum. Et donc, plus tu viendras ici, plus tu feras l'Umrah, plus tu auras envie de revenir. Certains disent aux riches, mais vous êtes riches, pourquoi vous êtes déjà parti 2 fois, 5 fois, 10 fois, fais une sadaqa, fais ceci, fais cela. Qui t'a dit fais pas de sadaqa déjà? Hein? Ceux qui rentrent dans les comptes des gens là. Qui t'a dit qu'il ne fait pas de sadaqat? Comment tu sais? Il doit venir frapper à ta porte. Je fais une sadaqat à tel. Il fait pour Allah Azza wa Jal. Il ne va pas te prévenir toi. Et peut-être s'il te prévient toi, tu aurais pu donner plus. C'est des gens comme ça. S'il ne donne pas, il le critique. S'il donne, il le critique. Hein?
Et c'est quoi la réponse? La réponse, elle est dans le Coran. Pourquoi il veut revenir comme ça? Pourquoi il aime trop comme ça? Hein?
Al-umra, chaque umra, elle a un goût différent.
Chaque hajj, il a un goût différent. On dirait que tu n'es même pas dans le même endroit. Allahu Akbar.
Tu marches où tu as marché. Tu viens où tu as marché, où tu es venu. Tu prends peut-être la même compagnie depuis des années. Wallahi l'azim, chaque voyage, il a un goût différent. Peut-être tu es venu il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, on dirait que ce n'est pas le même voyage.
Alors c'est quoi le secret? Le secret, il est dans le Coran. C'est un don d'Allah qu'il a mis dans le cœur des croyants.
C'est un don d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis dans le cœur de ses serviteurs et de ses servantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a fait de la demeure sacrée مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Qu'est-ce que ça veut dire مَثَابَةً?
Il a mis dans leur cœur un lieu où ils veulent revenir constamment et successivement. Ils sont venus, ils ont aimé, ils veulent revenir, ils aiment encore plus. Ils partent, ils pensent, ils ont envie de revenir encore. Naam, ils ont envie de revenir et de revenir et de revenir. C'est comme la science. Quand tu goûtes, ça ne peut pas s'arrêter. Une des épouses d'un grand savant ancien, elle s'est embellie pour son époux la nuit. Et elle l'a invité à ce à quoi les époux s'invitent. Et lui, il était en train d'étudier, il était avec ses livres, il était dans la science, dans le hadith et autres. Au début, il n'a pas fait attention à elle, une fois, deux fois. Lui, elle s'est vraiment embellie, elle est venue devant lui. Il a fait ça, il avait ses livres. Elle a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Ces livres sont pires pour moi que trois co-épouses. Elle a dit, ces livres, à lui, là, il y a Ali qui aime trop la science, sont pires pour moi que trois co-épouses. Et Ali, en gros, elle peut concurrencer les autres femmes, mais la science, elle ne peut pas concurrencer la science. Quand la science, elle rentre dans le cœur du serviteur, il n'y a rien qu'il peut aimer plus que ça. Parce que le lien avec la créature, ça te rappelle ce bâle. Le lien avec la science, les hadiths wassalam, ça te rappelle Allah Azza wa Jal, et ça te tire et te prépare pour l'au-delà. Voici quelques mérites de Mecca qu'il faut garder en tête pour optimiser notre temps sur cette terre sacrée. Ceci étant dit, permettez-moi de vous raconter l'histoire de la Mecque. Vous la voyez aujourd'hui, yani embellie, vaste, avec de l'eau partout, bondée de personnes. Mais sachez que jadis, rien de cela n'était. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'habitation, pas de gens. Et si on revient à la base de cette histoire, ça commence avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, très jeune, était très intelligent. Et il aimait Allah seul d'un culte sincère, il détestait le polythéisme. Son père confectionnait des idoles et il les vendait au marché. Ibrahim alayhi salam mettait en garde et avertissait contre l'adoration des idoles. Alors son père s'est mis en colère contre lui. Son peuple s'est mis en colère contre lui. Et le jour du Eid, le Eid des polythéistes, ils l'ont invité. Il leur a dit, je me sens mal, je suis malade. Naam, il a rusé, si on peut dire. Ça s'appelle Tawriya, c'est pas du mensonge. Je suis malade, c'est-à-dire du polythéisme que je vous vois accomplir. Mais eux vont comprendre, je suis malade, j'ai mal ici, je suis souffrant. Ils sont partis à leur fête, il est allé dans leur sanctuaire. Et il a cassé toutes les idoles, et il a laissé la plus grande. Quand ils sont revenus, ils ont dit, qui a fait cela à nos divinités? Il est vraiment du nombre des injustes. Une personne a dit, on a entendu un jeune homme les mentionner en mal, il s'appelle Ibrahim. Ils lui ont dit, c'est toi qui as fait ça à Ibrahim? Il a dit, demande à la plus grande si elle peut parler, peut-être que c'est elle qui l'a fait. Ibrahim alayhi salam veut les amener à la réflexion. Vous les appelez des divinités, elles n'ont même pas été capables de se défendre elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles vont nous défendre nous? Pourquoi on les adore si elles ne peuvent pas nous protéger? Demandez-lui, elle ne peut même pas répondre. Pourquoi vous l'adorez si elle ne peut même pas répondre? Ça a commencé comme ça. Puis ils ont désespéré de l'égarement, mais pour eux c'est la guidée d'Ibrahim. Alors ils ont allumé un feu ardent, tellement ardent qu'ils n'ont pas pu le prendre avec leurs mains et le jeter dedans. Ils l'ont catapulté. Ils l'ont catapulté dans le feu. Dans les airs qu'a dit Ibrahim, il a dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah Azza wa Jal a ordonné au feu de devenir fraîcheur salutaire. « Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Nous dîmes au feu, devient fraîcheur salutaire, il est devenu pour Ibrahim. Allahu Akbar, le feu qui a pour nature de brûler, de dévaster, Ibrahim alayhi salam, pour lui, ça a été fraîcheur salutaire. Ensuite, Ibrahim alayhi salam a fait la hijra. Ibrahim alayhi salam était dans quelle ville à la base? Dans quel pays? Qui sait? Il était fil Irak. Il a fait la hijra où? La ville de la bénédiction, la ville des prophètes. Fil Sham. Il est parti au Sham. Vous savez ce que c'est le Sham? Hein? Le Sham, c'est la région qui borde la Syrie, la Yani Lubnan, comment est-ce qu'on dit en français déjà? Le Liban, la Palestine. Vous voyez cette région-là, on appelle ça Sham. Ibrahim alayhi salam est parti au Sham. Et arrivé au Sham, il y avait un gouverneur qui était injuste et qui commettait des crimes. Et dès qu'il voyait une femme qui lui plaisait, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait son époux parce que dans les lois de son pays, il n'avait pas le droit de prendre une femme qui était mariée. Alors Ibrahim alayhi salam, ayant su cela, il a dit à son épouse qui s'appelait comment? Comment s'appelait l'épouse d'Ibrahim? Sarah. Sarah. Naam. Et c'était la seule croyante, Allahu Akbar, la seule femme musulmane. Il a fait l'égir. Il y avait Ibrahim alayhi salam, il y avait son neveu qui s'appelait comment? Un prophète après ensuite. Lot. Ibrahim alayhi salam, Lot alayhi salam et Sarah radiallahu anha. Et là-bas, ce roi-là a convoqué Sarah parce que c'était une femme très charmante. Ibrahim alayhi salam lui a dit, s'il t'interroge, dis je suis ton frère. Et en effet, je suis ton frère en islam. Innamal mu'minuna ikhwa, comme vous savez. Tous les croyants ne sont que des frères. Alors ce roi-là, une fois Sarah entrée, il a essayé de la toucher. Elle a dit, oh Allah, préserve-moi de lui par ce que tu voudras. Regardez la femme pieuse. Elle n'accepte pas qu'un homme la touche en dehors du mariage. Elle n'accepte pas cela. Que ce soit un roi, que ce soit un gouverneur, un riche, un pauvre, un blanc, elle n'accepte pas. Elle a fait dua. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi était paralysé, il a fait une crise. Puis elle a réfléchi, elle était très intelligente, elle s'est dit, s'il meurt, on va dire, je l'assassine. Alors là, elle a fait dua pour qu'il soit sain. Et il est redevenu normal. Il a retenté, elle a refait dua, il est tombé malade. Elle a refait dua, il est redevenu sain. La troisième fois, il a dit, faites-la sortir d'ici. Ça n'est pas une femme, c'est une diablesse. En revenant, Ibrahim alayhi salam lui dit, qu'a fait l'injuste de toi? Elle lui a dit, Allah m'a protégé de lui. Allahu Akbar. Hein? Regardez comment elle a rattaché le bienfait à son Seigneur. Allah m'a protégé de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une servante qui s'appelle Hajar. Et là commence l'histoire. Hajar, c'est la mère de qui? Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam espérait avoir un enfant. Mais après avoir atteint un âge très avancé, certains ont dit 80 années de sa vie, il n'avait toujours pas d'enfant. Alors Sarah a dit à Ibrahim alayhi salam, épouse Hajar en espérant avoir une descendance d'elle. Naam. Certains pensent que la polygamie c'est venu en islam. C'est pas venu en islam la polygamie. Les Arabes sur lesquels le Coran a été descendu, ils étaient polygames, si ce n'est qu'ils n'avaient pas de limite, pas d'équité. L'islam est venu pour régir le tout et limiter le nombre et donner des droits aux femmes. Et ceux qui disent, oui mais ils font ça aux femmes, ils font ça aux femmes. Vous qui parlez et dites que l'islam a opprimé la femme, dans vos peuples, il y a quelques siècles, vous faisiez des débats pour dire est-ce que la femme, elle a une âme ou elle n'a pas d'âme. Allahu Akbar. Vous allez apprendre aux musulmans ce qu'est une femme. Vous faisiez des débats pour savoir est-ce qu'elle est plus proche de l'animal ou bien de l'humain. Dans l'héritage, la femme, elle rentrait. La femme, elle rentrait dans l'héritage. Comme les bestiaux. Et vous allez apprendre aux musulmans c'est quoi une femme. Hein? Chez vous, vous réveillez la femme, vous lui dites va au travail, t'es en retard. Et vous restez allongé. Hein? Chez nous, la femme, quand elle se marie, elle a la dot et ensuite elle croise les pieds sous la table. Et quand tu rentres, t'as fait les courses, elle dit il manque ça. Ça, c'est dans l'islam. Vous allez apprendre aux musulmans c'est quoi une femme. Masha'Allah. Hein? Ils disent prends ta liberté. Des beaux slogans. Prends ta liberté. Hein? La liberté, c'est pas aller chez elle, on s'occupe d'elle, elle est, son loyer est payé, sa nourriture, elle arrive à sa table. C'est pas ça la liberté pour eux. La liberté, je vais vous dire, c'est quoi chez eux? C'est de la mettre en servitude chez un autre patron, en dehors de son mari, elle sort de chez elle, et ensuite un patron, il la prend dans sa main comme ça, il lui dit, tu viens à 8h du matin, tu repars à 17h. Est-ce que je peux rentrer à midi pour... Non, tu vas nulle part, travaille pour moi. Je vais acheter ton temps. Je finis à 17h, mes enfants, je vais les... Non, tu finis à 18h aujourd'hui. C'est ça la liberté? Elle va se soumettre.
un patron qui va l'exploiter pour gagner de l'argent sur son dos. Alors que le musulman, lui, il la prend, il l'honore, il dépense pour elle. Et vous voulez la faire sortir de chez elle pour qu'elle vous rapporte de l'argent. Subhanallah, c'est des slogans qui sont mensongers. Mais la femme musulmane, elle n'est pas idiote. Walillah, par la grâce d'Allah Azzawajal, elle sait que ça n'est qu'usurpation et prestidigitation. Naam, c'est des tours de passe-passe qui passent nulle part chez nous. Barakallahu fikum. Ils ont tout tenté. Ils ont dit on va enlever le hijab. Les femmes, elles ont toutes mis le hijab. Hein? On va interdire la salat. Elles ont commencé la salat. Subhanallah. Tu ne peux pas empêcher la lumière du soleil de rayonner sur la terre d'Allah Azza wa Jal. L'islam, c'est la lumière du soleil. Tu as l'image d'une personne qui essaye de souffler sur le soleil pour l'éteindre. Tu es ridicule. Toi qui veux parler sur l'islam, sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam, sur les musulmans, tu es ridicule. Cesse cela. Va apprendre ce qu'est l'islam. Arrête de te ridiculiser. Hajar radiallahu anha, par la suite, a enfanté. Et cet enfant a été appelé Ismaïl. Sara, tout naturellement, a été touchée de quoi ? De jalousie. C'est tout à fait naturel. Suite à quelques dissensions, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim alayhi salam de prendre Hajar, de prendre son fils Ismaïl, nouveau-né, allaité, et de partir où ? À Mecca. Il n'y avait aucune culture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'habitation. Et tout ce que je vous mentionne là, c'est dans un long hadith. Un très long hadith, rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Mada Al-Bukhari. Ensuite, Ibrahim a.s. est venu à Mecca. Il a obéi à son Seigneur. Il a laissé Hajar, il a laissé Ismaïl a.s. Puis il lui a laissé quelques vivres, quelques provisions. Et là, Hajar s'étonne. Elle lui dit à Ibrahim, « Oh Ibrahim, il amène ta troukoune, à qui tu nous laisses ici ?» Ibrahim part. Vous imaginez la situation. Parce que son Seigneur lui a donné un ordre. Il obéit. Il se soumet. Il fait passer l'amour de son Seigneur avant l'amour de son enfant, l'amour de Hajar. Radiallahu anhu. Et qui peut imaginer l'amour d'un père pour un enfant qu'il n'a eu qu'après 80 années de sa vie ? Personne, sauf celui qui a déjà vécu ça. Naam. À la troisième fois, elle lui dit, Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Il lui dit oui. Écoutez la réponse. Idhan la yudayyi'an Allah. Alors Allah ne nous abandonnera jamais. Allahu akbar. Imaginez cette situation. Juste un homme, je pense, il prend la femme, il la ramène au bled, il la pose avec l'enfant. Il part. Et cette situation, elle se passe. Qu'est-ce qu'elle va dire à la femme? Hein? Et il la pose pas dans un désert, sans eau, sans habitation. Mashallah, il la pose. Elle est dans son appartement, avec tout le confort, avec de l'argent, avec, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle va dire? Sauf celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hajar a répondu la femme de celle qui compte que sur Allah. La phrase de celle qui a confiance en son Seigneur. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, Allah lui facilite une issue. C'est ça qu'elle avait dans son cœur. C'est Allah qui a ordonné, Allah ne va pas nous abandonner. Cependant, vous devez savoir que lorsque la femme allait, elle a besoin elle-même de s'abreuver. Donc lorsqu'elle a été à bout de provisions, que s'est-il naturellement passé? Elle n'a plus eu de lait. Alors l'enfant s'est mis à pleurer. Elle l'a posé et elle a cherché de l'aide. Elle a vu que le mont le plus proche, c'était As-Safa. Alors elle est partie à As-Safa. Puis elle est montée sur As-Safa. Et elle a cherché de l'aide, elle a trouvé personne. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle est descendue, et elle a vu que le mont le plus proche, c'était El Marwa. Et c'était une vallée. Une vallée, c'est l'espace qui est situé entre deux montagnes. Donc, elle a déferlé la montagne, et arrivée sur la sphère plate, elle a couru. Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Entre les deux faisceaux verts fluorescents. Pourquoi on court? Parce que c'était l'endroit où c'était plat. Et à cet endroit qui était plat, Hajar a couru. Comme on court aujourd'hui, subhanallah. Naam. Puis quand c'est remonté, elle a marché. Elle est montée sur El Marwa, elle a cherché de l'aide. Et elle a fait 7 allées. Ça vous rappelle quelque chose, ce nombre encore? Au 7e allée, elle a entendu un bruit. Elle a dit, Saha. Sar en arabe, ça veut dire tais-toi, mais elle se parle à elle-même. Observe le silence pour mieux entendre. Et là, Allah Azzawajal a envoyé un ange qui a mis un coup dans le sol et l'eau de Zemzem a jailli. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa main? Elle a fait comme ça, de peur que l'eau s'éparpille, qu'elle n'en ait plus. Elle a fait comme ça. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Elle avait laissé l'eau sortir. Aujourd'hui, l'eau de Zemzem serait un fleuve qu'on peut voir à l'œil nu.
Naam.
Les savants ont posé la question. Allah Azzawajal était capable de lui donner l'eau de Zemzem dès le premier aller, n'est-ce pas? Quelle est la sagesse de lui avoir donné qu'au septième aller? Au septième aller. Qui a la réponse? Déjà, on doit un cadeau à la personne qui a répondu hier. Naam. Celui qui répond à cette question lui donne un cadeau aussi. T'es venu avec l'argent Rukman ou pas? Pour la sœur, on lui offre une montre Al-Fajr, une belle montre Hijab. T'as ce qu'il faut ou pas? Ou bien il va compléter? C'est bon, les frères, ils vont cotiser. Réfléchissez pas, on ne vous a même pas donné le choix. Donc, maintenant le cadeau pour le frère. Celui qui trouve cette réponse, on lui donne aussi à lui une montre Al-Fajr de son choix. Les gens vont dire, pourquoi j'ai pas assisté au cours d'hier? Donc, Hajar a fait 7 allées. Et Allah Azzawajal lui a donné l'eau de Zemzem qu'au 7e allée à la fin. Alors qu'il est à la kulli shay'in qadir, il pouvait lui donner dès le début. Quelle est la sagesse? Naam khalti. La patience. Plus subtil que ça. La persévérance. C'est pas parce qu'il y a des rimes que je vais vous donner la bonne réponse. Écoutez la réponse. Dans le premier aller, quand elle est montée sur la Safa, elle cherchait quoi ou qui? Elle cherchait de l'aide. Dans le deuxième aller, la même chose. Troisième, au septième aller, elle a désespéré de l'aide des créatures. Elle s'est dirigée que vers le Créateur. Et là, en un clin d'œil, Allah Azzawajal l'a délivrée. Mafoum, vous avez compris? Quand elle cherchait chez les créatures de l'aide, Allah Azzawajal l'a laissée dans ses efforts. Et dès lors qu'elle a désespéré de l'aide des créatures, Allah Azzawajal, immédiatement, il lui a donné, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Et cette faïda, elle est dans le charte de l'Arba'in Nawawi, de Shi'atiya Mohamed Salim, rahimahullahu ta'ala. La montre reste au magasin. Donc, que s'est-il passé ensuite? Elle a eu l'eau, et il y a une tribu qui est arrivée. Et ils ont demandé à Hajar la permission d'utiliser l'eau. Subhanallah. Elle était toute seule avec un bébé, mais ils respectaient les femmes. Naam. Et c'est la première tribu arabe. Si on vous demande, c'est qui la première tribu arabe? Elle s'appelle Jurhum. Jurhum. Naam. Et Hajar aimait la compagnie. Naam. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas rester beaucoup seules. Elles aiment la compagnie. Hajar, elle aimait la compagnie. Alors elle a répondu, oui, vous pouvez avoir accès à l'eau, mais vous n'aurez pas le droit dessus. Puis, son fils a grandi dans la tribu de Jurhum et il a développé la langue arabe. C'est Ismaïl alayhi salam qui a développé la langue arabe. Il y avait une base, mais c'est lui qui l'a développée. Naam, et qui en a fait son éloquence. Quand il a grandi, c'est devenu le meilleur de leurs enfants, comme vous pouvez imaginer. Alors, ils l'ont marié à une fille de leur tribu. Plus tard, Ibrahim alayhi salam est revenu visiter son enfant. Vous imaginez combien d'années après? C'était devenu un homme, marié. On lui a indiqué sa demeure, il a frappé, il a salué, il a demandé à voir Ismaïl, on lui a dit il est absent. Puis il a demandé à cette femme, comment allez-vous et quelle est votre situation? Vous savez ce qu'a fait cette femme-là? Une activité malheureusement connue chez certaines femmes. T'as trouvé directement? Elle s'est plainte. Oui. On vit mal. Est-ce beaucoup de remontrances? Ça va pas ceci, ça va pas cela, ça va pas ceci, ça va pas cela. Vous savez ce qu'il lui a dit Ibrahim alayhi salam? Quand ton époux entre, salue-le et dis-lui qu'il change le pas de sa porte. Vous savez, ça veut dire quoi, change le pas de sa porte? Ça veut dire divorce-la et qu'elle rentre chez sa famille. Quand il est rentré, comme il rentre habituellement, Il lui a demandé, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ? Oui, un vieil homme nous est venu. Quelle est sa description ? Comme ceci, comme cela, il a reconnu son père. Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Oui, il te salue et il te dit de changer le pas de ta porte. Il l'a divorcé immédiatement et il lui a dit de retourner chez sa femme. Naam. Plus tard, Ibrahim alayhi salam est revenu le visiter et s'est remarié avec une nouvelle épouse. Il a demandé de ses nouvelles, il n'était pas là. Puis il lui a demandé, comment allez-vous ? Quelle est votre situation ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comme certaines femmes pieuses et éduquées, reconnaissantes, connaissant la valeur et les droits de l'époux, elle a fait les éloges, elle a remercié Allah. Puis elle a fait les éloges de l'époux. Puis elle a dit, Alhamdulillah, on vit dans le bien, on est à la khayr. Que lui a dit Ibrahim alayhi salam ? Dis-lui de maintenir le pas de sa porte. C'est-à-dire, garde-la cette épouse. Naam. Barakallahu fikum. Par la suite, Ibrahim alayhi salam est revenu. Et là, il a rencontré son fils. Imaginez les retrouvailles. Hein? Après de nombreuses années, ils se sont embrassés comme le père embrasse son fils. Et là, il lui a dit, Allah m'a donné un ordre. Il m'a ordonné de construire pour lui une demeure ici, à Mecca. Ibrahim Ismaïl alayhi salam lui a dit, Ifal ma amaraka rabbuk. Amaraka rabbuk. Fais ce que ton Seigneur t'a commandé. Fais ce que ton Seigneur t'a commandé. Et là, cette phrase, elle nous rappelle une autre phrase qui n'est pas notre sujet, mais quand Ismaïl alayhi salam était petit, Allah Azza wa Jalla avait ordonné à Ibrahim de le sacrifier. Naam. Et quand il lui a mentionné qu'en rêve, il se voyait souvent en train de le sacrifier, que lui a répondu Ismaïl ? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh cher père, fais ce que ton Seigneur te commande. Tu me trouveras, inshallah, du nombre des gens pieux. Regarde la famille, Allahu Akbar. Hajar, le mutawakkil ala Allah. Ibrahim alayhi salam, Khalil Rahman et Ismaïl. Naam, yani quelle famille soumise à Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Alors ils ont commencé à construire la Kaaba, ils ont réuni les pierres. Et ils ont commencé à construire la Kaaba et ils l'ont élevée. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela dans le Coran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail. Rabbana wa taqabbal minna. Plutôt Rabbana taqabbal minna. Innaka anta as-sami'u al-alim. Et lorsqu'Ibrahim et Ismail élevaient les fondements ou les fondations de la maison, tout en disant, ô notre Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient. Les savants disent, subhanallah, Ibrahim alayhi salam construit la maison d'Ar-Rahman, suite à l'ordre de Ar-Rahman, et pourtant il a peur qu'Allah n'accepte pas cela de lui. Il fait dua, il agit, il fait dua. Donc quand on fait le hajj, quand on fait l'umrah, quand on fait une adoration, il faut demander l'aide à Allah, et il faut demander à Allah l'acceptation, avoir peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Parce qu'Allah est parfait, il mérite la perfection, et on ne saurait l'atteindre. Et lorsque l'édifice s'est fait trop haut à portée de bras, pour mettre les pierres à portée de bras, il a pris un espèce d'escabeau, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. Il y avait l'empreinte de la trace de ses pieds. Naam. Et c'est ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. Et c'était collé à la Kaaba. Et c'est comme cela qu'il a pu élever l'édifice aussi haut. Et on pourrait se demander, mais là, Maqam Ibrahim, il est loin de la Kaaba. Comment ça se fait? Parce que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il y a eu énormément de musulmans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé Maqam Ibrahim pour faciliter le tawaf. C'est pour ça que Maqam Ibrahim n'est plus collé à la Kaaba. Donc ils ont construit ensemble la Kaaba.
Qu'est-ce qui nous amène, nous tous, ici? T'es venu faire quoi, toi? Al-Hajj. D'accord. C'est quoi le lien avec tout ce qu'on vient de dire et le Hajj? Quand Ibrahim alayhi salam a fini de construire la Kaaba, Allah Azza wa Jal lui a dit de faire l'adhan. Est-ce que c'est l'adhan des cinq prières? Non, c'est l'adhan pour le hajj. Allah Azza wa Jal
lui a ordonné, naam, de faire l'adhan, le adhan pour le pèlerinage. Wa adhim fin nasi bil hajj ya'touka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dans sourate Al-Hajj, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Ibrahim alayhi salam de faire l'adhan. Naam. Il lui a ordonné, naam, de faire
al-adhan, en lui disant, et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.
Venant de tout chemin éloigné.
Naam.
Ibrahim alayhi salam fait l'adhan, mais il est à Mecca. Alors il dit, Ya Rab, mais si je fais l'adhan, comment est-ce que ça va parvenir aux gens? On lui dit, toi tu fais l'adhan, et nous on va faire parvenir aux gens. Et aujourd'hui, la première chose que tu dis, après t'être mis en état d'ihram et tu remontes dans le bus, dans le car, dans le taxi, qu'est-ce que tu dis du miqat jusqu'ici? C'est quoi le premier mot que tu dis? Dites-moi, j'entends pas. La baik. Ça veut dire quoi la baik? Je réponds à ton appel. C'est quel appel? C'est l'appel d'Ibrahim, l'appel d'Allah Azzawajal fait par Ibrahim alayhi salam. Ainsi, les musulmans du monde entier répondent à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Il y a eu combien de siècles? Allahu alam, combien de siècles se sont écoulés? Et cet appel-là est resté éternellement, sans éternellement. Naam. Et tous, chacun d'entre nous, on répond à cet appel en disant quoi? La baik, Allahumma, la baik. Je réponds à ton appel, wallah. Je réponds à ton appel. La baik, Allahumma, la baik. La baik, ala sharika, la ka la baik. Tu n'as pas d'associé. Tu n'as pas d'associé dans quoi? Dans ma soumission, dans ma servitude, dans mes adorations et dans cette réponse-là à la Umra ou bien au pèlerinage que je viens accomplir. C'est que pour toi, Ya Allah, avec amour, espoir et crainte. Ensuite, tu répètes, la baik, Allahumma, la baik. La baik, ala sharika, la ka la baik. Inna alhamda wa ni'mata lak wa almulk la sharika lak. Ensuite tu dis toutes les louanges, les perfections, les bienfaits, les grâces t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Donc ni tu n'as d'associé dans l'adoration, l'obéissance, la servitude, ni tu n'as d'associé dans le fait d'avoir créé cet univers, d'en être le propriétaire, administrateur et gérant. Naam. Donc tu réponds à cet appel qui a été fait par Ibrahim alayhi salam. Savez-vous, le prophète alayhi salat wa salam a fait le hajj en quelle année après l'Égypte? Le tawhid, le premier pilier de l'islam, il a été ordonné avec l'islam. Hein? Tu respires le tawhid, tu vis le tawhid. Et celui dont la dernière parole sera le tawhid, man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illa dakhala al-jannah. Ça m'a dit, celui dont la dernière parole sera dans ce bas monde-là, il rentrera au paradis. Tawhid, c'est tout le temps. D'accord. Deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? C'est la prière. Il a été ordonné quand? Lors du voyage nocturne. Lors du voyage nocturne, en l'an 10, après le début de la prophétie. Taïb, la zakat, juste après. Le jeûne, 2 ans après l'égir. 2 ans après l'égir. Il reste quoi? Il reste le hajj. Le hajj, il a été ordonné quand? Hein? Quand est-ce qu'il a été ordonné et quand est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a accompli? Qui répond à cette question? Vous êtes fatigué, on arrête? Indak, sahib al-Jazairi. Allahu alam. Allahu alam, c'est toujours une bonne réponse. Allah est le plus savant. Endaman. Walid. Je ne te sens pas motivé, Walid, là. Alors. Endaman. Qui répond et donne une bonne réponse? Kadir. Un an avant sa mort. Un an avant sa mort, ça, c'est l'ordre du pèlerinage. En l'an 9 de l'Égypte. Ça, c'est l'année où le pèlerinage a été rendu obligatoire. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِدُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَعَ عَلِي سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est une obligation d'Allah qui incombe sur les gens que d'accomplir le pèlerinage à la maison. Pour celui qui en a la capacité, celui qui mécroit, certes Allah se passe largement des mondes. D'accord. Est-ce que le prophète a accompli le hajj cette année? Hein? Non. Il a envoyé Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib et autres. Ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti au... Lui, au Hajj, dernière chance pour avoir le cadeau. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parti au Hajj? Il a envoyé Abu Bakr, il a envoyé Ali, radiallahu anhuma. Hein? Et avant de ne plus avoir de cadeau en stock, je réponds moi-même à la dernière question. Pas celle-ci. Je vous laisse un peu pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Je te laisse encore une minute. L'année d'après, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui, a fait le hajj. Et là, que s'est-il passé? Vous avez entendu dans le verset, Ibrahim, alayhi salam, il était tout seul, il a fait l'adhan. Et là, l'année où le prophète, alayhi salatu wasalam, a fait le hajj, les gens ont déferlé de toute la péninsule arabique. Vous savez, ils étaient combien? Pour vous, juste pour faire un comparatif, quand il est monté sur Ashrafa, il a fait da'wa. Abdullah ibn Saoud s'est converti à l'islam, il a dit, Wallah, je me suis dit, j'étais 6e de 6. On était 6 musulmans. À la Mecque, là, on est combien là? Des centaines. Ils étaient 6 musulmans. Allahu Akbar. La première à avoir cru, c'est qui? La meilleure des femmes du monde. La seule femme au monde, je pense, jamais un homme, il s'est plaint d'elle. Ça n'existe pas, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jalla. Hein? C'est qui? Khadija bint Ruwaylid radiallahu anha. La mère de tous les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, sauf un seul. Qui Luqman? Khadija, c'est la mère de tous les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, sauf un seul. Qui? Ibrahim. Barakallahu fikum. Naam? C'est la première à avoir cru. La première musulmane du monde. Du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, le premier des hommes, c'est qui? Abu Bakr. Le premier des enfants? Ali ibn Abi Talib. Naam. Il y a eu Zayd al-Haritha, le premier des serfs avant, et ainsi de suite. Abdullah ibn Saoud dit 6e de 6. On peut même pas imaginer ça. 6 musulmans au monde. Naam. Vingt-deux ans après, ça correspond à la première fois que je suis venu ici jusqu'à maintenant. 22 ans après. Ou 21 ans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on fait une annonce sur lui, il va faire le hajj. Imaginez ce qui s'est passé. Les gens de toute la péninsule arabique, celui qui avait un cheval ou un chameau, ou ses pieds en bonne santé, un peu d'argent pour partir, laisser à sa famille et revenir, il est parti à Médine. Les gens de toute la péninsule arabique sont venus à Médine. Ils étaient environ 100 000 personnes. Environ 100 000 personnes. Allahu Akbar. Tous espéraient avoir comme imam, comme guide qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Toi tu fais le hajj sans guide ou la umra sans guide, et ensuite tu fais la umra avec un guide, avec un prêcheur sur la sunna. Ça on dirait t'as pas fait la umra, t'as pas fait le hajj. Ça ou là. Imagine tu fais alors la umra ou le hajj avec un savant qui fait des rappels. Que ton cœur, wallah, il va sortir de ta poitrine. Ton cœur, il va s'envoler, c'est toi qui vas le rattraper avec tes pieds. Alors imagine, tu fais le hajj derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Tout le monde regarde ses faits, tout le monde écoute ses paroles, tout le monde regarde ses gestes. Jabir ibn Abdullah, il a mémorisé le long hadith, il l'a raconté du début à la fin. Même les larmes du prophète, il les a rapportées. Le prophète, alayhi salam, il est rentré dans le masjid al-haram, par telle porte. Ensuite, il est descendu, il a attaché sa monture. Naam. Il est parti pour faire le tawaf. Avant, il a touché la pierre noire, il l'a embrassé et il a fondu en larmes. Même les larmes, ils l'ont rapporté. Allahu Akbar. Même les larmes du prophète, elles ont été rapportées dans le hadith. Ils ont tout rapporté. La taille des pierres qu'il a jetées sur les steppes. Comme des petits pois chiches. Naam. Qui était derrière lui sur le chameau pour aller à Muzdalifa? Qui était derrière lui sur le chameau pour aller jeter les pierres? Là, c'était Oussama. Là, c'était le Fadl. Ils ont tout rapporté minutieusement. Alors, bien évidemment, ils sont tous venus pour regarder le prophète, pour le prendre comme exemple et pour aller avec lui. Imaginez la talbiya sur le chemin. Il n'y a pas le car, il n'y a pas le train, il n'y a pas tout ça. Pendant 10 jours, un voyage taqriban de Médine à Mecca, à l'époque, ça mettait 2 semaines environ. Hein? Imagine la talbiya pendant 10 jours, t'entends la bayk Allahumma. Ensuite, Jibril vient, il dit au messager d'Allah, ordonne à tes compagnons de dire fort la talbiya. Imaginez 100 000 personnes. Naam. Asma bint Umays, elle accouche au miqat à Médine. Même les femmes enceintes, un ventre. Subhanallah. Ça veut dire qu'elle a été à 8 mois ou là, je ne sais pas combien de mois. Elle dit, je vais au hajj. Aujourd'hui, la femme, elle a 8 mois. Elle dit, je prie assis. Enfin, ensuite, elle sort. Subhanallah. Hein? Elle, avec un ventre comme ça, va faire le hajj. Ensuite, elle accouche au miqat. Ça veut dire qu'elle a fait le hajj avec un bébé. C'est l'épouse de Abu Bakr. Hein? La veuve de Ja'far ibn Abi Talib. Après la mort de Abu Bakr, la veuve de j'ai oublié le troisième. À la kulli hal, le prophète sallam a fait la hajj lui en an 10. On revient à la question et on s'arrête sur cela.
Si vous le voulez.
Quelle était la question ?
Pour le Hajj a été prescrit, rendu obligatoire en l'an 9 de l'Hijra. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas fait cette année-là ? Mais il a envoyé Abu Bakr, il a envoyé Ali, il a envoyé d'autres radiallahu anhu.
Un malien à ma gauche a la réponse. Va-t-il repartir avec la montre ? Toi, tu lèves la main ou tu te grattes ou là, c'est une main timide, ça. Il faut des mains déterminées, des mains fortes. Hein? Maquel Jawab, t'as la réponse? Tu viens d'où, mon frère? De Paris. Ton origine? De Tunisie. Est-ce que le Tunisien va donner la réponse? Et amener la montre en Tunisie. T'as une possibilité. Tu penses que là, tu as la réponse? Vas-y. Il voulait qu'on prenne exemple sur lui. Et qu'on la fasse qu'une fois. Je suis navré, ça n'est pas la bonne réponse. J'aurais aimé que tu trouves la bonne réponse. Parce qu'on va m'accuser de donner prévalence aux Maliens. Mais que puis-je faire s'ils ont la bonne réponse? Dernière chance pour un homme de détrôner le Mali. Là, au fait, t'es un Tunisien, toi? Marocain? Comme j'habite chez toi, je te laisse la parole. Il était malade en l'an 9? Ça n'est pas la réponse. Le Maroc a échoué. Adil, tu veux secourir ton frère de pays? Non, ça n'a pas de lien avec cela. Il était trop occupé à recevoir les délégations? Je voulais, ça s'appelle même plus des chances. Hein? J'ai été trop bon envers. Bakari, vas-tu mettre fin à ces erreurs successives? Attends, je préfère que tu répondes pas plutôt que tu te trompes, hein, après tout ce que je dis. Ça va, Tal? Alhamdulillah. La bonne réponse d'un musulman, ça nous suffit, peu importe le pays duquel il est. Donc, ça c'est la moitié de la réponse. Il y avait encore du shirk. Il y avait encore du polythéisme à Mecca. Et il ne convenait pas au prophète, alayhi salatu wassalam, de se mélanger dans ce climat souillé de polythéisme. Et il y avait des gens qui faisaient encore le tawaf nu. Je ne sais pas si vous savez. Ceux qui venaient à Mecca devaient prendre les vêtements spéciaux de tel endroit. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, ils se dénudaient littéralement et ils faisaient le tawaf nu en se cachant juste avec les deux mains. Homme ou femme, wal'iyadhu billah. Il y avait ces deux choses-là. Alors le prophète n'est pas parti cette année-là. Et il a dit à Ali ibn Abi Talib de proclamer « Plus personne ne fera le tawaf nu, ni aucun polythéiste. » On a apprêté le chemin pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a une deuxième chose. Pour l'instant, t'as que le... Comment on appelle ça? Le bracelet sans le... Comment on appelle ça? Sans... Le cadran. Hein? Alors. Allahu a'lam. Il est dans la bande à... Allahu a'lam. Ya Allah, sortez les stylos. Gardez les euros, sortez les stylos. Kuffar Quraysh pratiquait an-nasi. Innama an-nasi ziyadatun fil kufr. C'est quoi an-nasi? An-nasi, c'est qu'ils altéraient les mois sacrés. Kuffar Quraysh jouaient avec les mois sacrés. C'est-à-dire, Pendant les mois sacrés, on n'a pas le droit de faire la guerre, on n'a pas le droit de ceci, cela. Moi, je veux faire la guerre, qu'est-ce que je fais? J'avance un peu le jour. Comme ça, je vais faire la guerre et après, je décale un peu. Et je dis, j'ai pas fait la guerre dans les mois sacrés. Vous avez compris? Si je décale les mois sacrés, si je décale les jours, est-ce que le jour de Arafat, c'est le jour de Arafat en vrai? Non. Le jour du Eid, c'est l'Eid ou pas? Non. Et ainsi de suite. Donc, ils altéraient. Et chaque année, vous savez que ça recule. Chaque année. N'est-ce pas? Une année lunaire. Vous êtes au courant que ça recule. À chaque fois, ça recule. Ben, subhan al-malik. L'année où le prophète alayhi salat wa sallam a fait le hajj, tout est redevenu en ordre. Tout est redevenu en ordre, c'est-à-dire les jours sont redevenus les vrais jours. C'est pour ces deux raisons-là que le prophète alayhi salat wa sallam n'avait pas fait le pèlerinage cette année. Donc, il l'a fait l'année suivante. Et inshallah ta'ala, lorsque on sera inshallah ta'ala à Mina, chaque jour, on prendra le hadith de Jabir et on racontera que la partie du jour qu'on va appliquer. Qu'a dit le prophète? Qu'a fait? Quand? Comment? Pourquoi? Inch'Allah ta'ala, on expliquera tout cela. Demain, Inch'Allah ta'ala, après la prière du Asr, ou bien une heure avant, on fera le cours. Parce que là, on a voulu faire après le Asr, mais comme vous avez vu, on a perdu beaucoup de temps. Donc, je m'interroge. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux de faire avant pour pouvoir ne pas être gêné, ou bien on laisse après l'Asr pour que tout le monde puisse en bénéficier s'il n'y a pas d'impondérant. Qu'est-ce que vous voulez, les frères? Après l'Asr? D'accord.